Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Bonjour à tous et bienvenue dans Booster, la troisième saison de Sillage, le podcast des EcoStart. Je suis Amélie Petit-Demange et à mes côtés Florent Verret. On est tous les deux journalistes aux EcoStart et on est ravis de vous présenter ce nouvel épisode.
Booster, c'est la rencontre entre une femme qui a réussi sa carrière et une étudiante ou une jeune diplômée qui lui posera toutes les questions qui lui passent par la tête, sur sa carrière bien sûr, mais aussi sur tout ce qui va autour, quel compromis faire entre sa passion et sa vie personnelle ou comment gérer sa vie familiale. Si ce thème du mentorat féminin vous intéresse, vous pourrez retrouver un nouvel épisode toutes les deux semaines.
Aujourd'hui, nous sommes avec Isabelle Autissier. Isabelle, vous êtes navigatrice, écrivaine et présidente de l'ONG WWF France. En 1991, vous avez été la première femme à accomplir un tour du monde en voile, en compétition et en solitaire. Vous êtes aussi ingénieure agronome.
Un parcours, on peut le dire, exceptionnel, qui n'a pas manqué d'intéresser notre étudiante, Capucine Bourgeois. Bonjour Capucine.
Bonjour.
Capucine, vous avez 23 ans, vous êtes sportive de haut niveau en équitation et vous menez en parallèle des études de marketing. Capucine, expliquez-nous en quelques mots pourquoi vous avez voulu rencontrer Isabelle Autissier.
Parce qu'on a une passion commune pour le sport et la compétition, mais également parce qu'on a le même combat qui est de protéger l'environnement.
Merci Capucine. Maintenant, Isabelle Autissier est à toi. Tu peux lui poser toutes les questions que tu veux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci de m'avoir accueillie. Du coup, vous êtes une grande navigatrice. Lors de vos tours du monde, vous avez subi un naufrage. J'ai pu regarder et pendant 3 jours, vous êtes restée seule en mer. Comment avez-vous fait mentalement pour ne pas craquer ?
Je crois que c'est d'abord il y a l'expérience, parce que ça faisait quand même déjà plus de 30 ans que je naviguais, donc je suis moins surprise par les coups durs, on va dire. Et puis c'est la préparation avant, c'est-à-dire qu'avant, avec mon équipe ou moi dans ma tête, on réfléchit à toutes les horreurs qui peuvent arriver. On les prépare, on se prépare mentalement à ce que ça arrive, mais aussi on se prépare techniquement. On invente des objets, des formations, des tas de choses qui vous aident à faire face aux problèmes quand ils arrivent. Donc du coup, quand il y a un problème qui arrive, c'est jamais tout à fait celui auquel on a pensé, mais on a quand même déjà pensé que ça pouvait arriver, donc on est prêt psychologiquement, et puis on a dans le bateau ce qu'il faut pour faire face, quoi.
D'accord. En fait, vous avez fait beaucoup de préparation mentale en amont.
Alors, moi, j'ai fait un peu de sophro. Je trouvais ça pas mal parce que la mer, c'est un peu particulier. C'est 24 heures sur 24, des fois pendant 3 mois d'affilée. Donc, c'est pas une compétition habituelle. Il n'y a pas 2 heures et puis après, je rentre chez moi et je bois un verre avec mes amis, et etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de tension mentale permanente. Il ne faut pas se tromper dans les décisions. Donc, la sophro, c'était pas mal. Ça permettait de faire baisser un peu le stress.
Et du coup, est-ce que vous avez fait également de la préparation physique, on va dire pour...
Alors, c'est un peu obligatoire aussi. Je ne suis pas tellement dans un cas de figure où il y a certains muscles très importants, comme dans des sports où il faut avoir de la carrure, où il faut avoir des jambes, où il faut avoir du souffle. Pour les marins, c'est un peu de tout. Donc, du coup, oui, c'est bien quand même d'avoir une préparation physique un petit peu globale et en particulier quand même tout ce qui est fond, course, vélo, natation. Parce qu'on est souvent amené à faire des efforts un peu de longue durée. Quand on manœuvre des grandes voiles, ça prend 10 minutes, un quart d'heure. Des fois, il faut recommencer peu de temps après. Donc, tout ce qui est... Il y a un peu de puissance musculaire, mais c'est beaucoup du fond.
D'accord. Et je pense que vous avez déjà subi des échecs. Comment avez-vous fait pour surmonter psychologiquement ces échecs ?
Parce que je m'en fous. Parce que de toute façon, ce que je fais en mer, c'est du bonheur. Naviguer, c'est du bonheur. Donc déjà, j'ai ça. Personne ne me l'enlèvera. Faire un tour du monde toute seule, c'est un truc absolument génial. Alors évidemment, j'ai envie de gagner. Évidemment, si je ne gagne pas ou si je casse le bateau, je suis frustrée. Mais une frustration dans la vie, on en a tous. Mais ça n'empêche pas que j'ai quand même eu tout ce bonheur de faire ce que j'ai fait et d'arriver là où je suis arrivée. Donc voilà, donc je crois qu'après, il faut faire un peu la part des choses. Et puis, tout ça n'est qu'un jeu. On ne va pas me couper la tête si je ne réussis pas. Donc, c'est des objectifs que je me mets à moi-même ou vis-à-vis de mes sponsors ou je ne sais pas quoi. Mais ben voilà, il y a un truc qui ne marche pas, ben, faut comprendre pourquoi. Et puis, la fois d'après, ça marchera peut-être. Et puis, je pense qu'il faut le prendre avec le plus de recul possible. C'est pas moi, personnellement, qui suis en cause. C'est peut-être les décisions que j'ai prises, la façon dont je me suis préparée. Voilà. Donc, c'est des choses sur lesquelles je peux agir. Si je me disais, c'est moi, Isabelle Autissier, qui suis vraiment nulle, bon, ça serait pas très sympa de se dire ça, et puis ça m'encouragerait pas à continuer. Alors que si je me dis, bah tiens, dans ma préparation, j'ai oublié ça, et puis du coup, j'ai eu un problème, ok, je sais ce qu'il faut que je fasse la prochaine fois, donc finalement, c'est pas si grave que ça.
Oui. Mais du coup, ce recul que vous êtes arrivé à avoir lors de vos compétitions, est-ce que cela vous a aidé dans votre vie de tous les jours, dans votre vie professionnelle ?
Ah ben ça, c'est génial, ouais. C'est génial parce que je pense qu'il ne peut pas m'arriver grand-chose maintenant. Et tu vois, là, il se trouve qu'en ce moment précisément, je suis dans une situation professionnelle très compliquée, qui me demande énormément de travail, énormément d'investissement. Et ce n'était pas prévu, ça m'est tombé dessus en 2 jours. Et voilà, bon. Mais bon, bah, so what, quoi, tu vois, je vais pas mourir, je vais juste bosser beaucoup, beaucoup, je vais essayer de prioriser les choses, parce que c'est ça qui est important dans la vie, et puis voilà, et puis je vais trouver des solutions, parce qu'il y a toujours plus de solutions que de problèmes, hein. La question, c'est de trouver la moins mauvaise des solutions, mais des solutions, il y en a toujours plein. Donc évidemment, toute cette façon de me confronter aux problèmes que j'ai connus en course au large, avec en plus la cerise sur le gâteau, c'est que comme moi j'ai beaucoup navigué toute seule, c'est mes propres ressources que je suis allée chercher, donc je sais que j'en ai. Je sais que je peux aller relativement loin, parce que je suis déjà allée relativement loin. Donc du coup, je me sens plutôt sereine. J'ai pas envie d'avoir des ennuis, mais s'il y en a, bon, voilà, c'est juste des ennuis, quoi.
Oui, c'est voir les choses plutôt positivement que négativement.
Non, mais attends, on ne se connaît pas très bien, mais on vit dans un pays en paix, on a à manger tous les jours, on n'est pas coupé en rondelles par un dictateur, on n'est pas... Enfin, voilà. Donc, ça, c'est bon, hein. Le reste, on fait le mieux possible. On fait le mieux possible pour nous et pour la société dans laquelle on est. Et tu fais le mieux possible pour la société quand toi, t'amènes le maximum. Toi, t'es une grande sportive, voilà, c'est ce que tu peux amener à la société, puis aussi ta vision de sportive, les valeurs que tu vas porter, les valeurs que tu vas défendre à travers ton sport, et ce que tu vas incarner, tu vois, voilà, c'est tout, c'est pas la peine de se compliquer la vie. Après, heureusement, on a tous des exigences, on a tous des objectifs, on a tous un petit ego, même parfois un gros ego. Des fois, on n'est pas content, on n'est pas heureux, on rate, mais ça fait partie de la vie. Hein.
Oui, et du coup, ce positivisme, est-ce qu'on peut le voir également dans l'écologie ? Parce que du coup, on a aussi un autre point commun, c'est l'environnement et la protection des océans. Et pour vous, est-ce que vous pensez qu'on peut voir ça de façon positive ?
Moi, j'ai pas d'idée sur cette question-là. Je constate les choses qui sont très graves et qui me font dire, parce que je suis une scientifique, en plus je suis une spécialiste des océans, et que sur cette question-là, par exemple, si on continue comme ça, ça va aller très mal pour nous, hein, pour les océans, mais surtout pour nous. Déjà, quand on mange du poisson, aujourd'hui, on mange du plastique, et le plastique, c'est pas bon pour la santé. Donc voilà, donc je suis capable d'analyser, de comprendre ce que les scientifiques nous disent et d'analyser la situation. Je sais qu'elle est très grave. En même temps, on n'a jamais eu autant de solutions. On les a toutes, quasiment. Et il n'y a jamais eu autant d'énergie citoyenne, associative, etc., pour mettre en œuvre ces solutions. Donc, je ne me dis pas... Je ne sais pas si ça va marcher ou pas marcher. Je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Je suis juste dans l'action. Et je me dis, ce qu'il faut, c'est y aller à fond, ne serait-ce que pour se regarder dans la glace le matin, parce que sinon, si je ne faisais rien, je ne me sentirais pas bien. Et puis, faisons à fond et on verra bien où ça nous mène. On ne peut pas faire à moitié. Si on fait à moitié, on sait que ça ne marchera pas. Donc voilà, donc j'ai cette même façon de voir les choses pour les questions environnementales. C'est comme un bateau, il faut y aller à fond, quoi. Sinon, on est sûr de ne pas gagner. Tu le sais bien aussi, quand tu t'entraînes ou quand tu fais une compétition, tu ne peux pas faire la compétition à moitié. Au départ, tu ne sais pas si tu vas gagner ou si tu ne vas pas gagner. Hein, ce n'est pas écrit, ce n'est pas décidé. C'est pas, voilà. Tu ne peux le savoir qu'à la fin, quand tu auras fait tout ce qu'il faut à fond de tout ce que tu sais faire. Puis à la fin, bah, tu verras bien si tu es première, troisième ou dernière. Et bien, l'environnement, pour moi, c'est un peu pareil.
Et vous, vous pensez que la jeune génération doit agir, doit faire quelque chose ?
Bah, c'est-à-dire que vous êtes comme nous, vous n'avez pas le choix. Parce que, à la toute petite différence de nous, moi j'ai 62 ans, je pense que, mettons que je vive à l'âge, jusqu'à l'âge moyen des Françaises, c'est-à-dire 87 ans, je pense que déjà, quand je mourrai, il y aura eu déjà des changements absolument considérables dans nos vies, qui seront malheureusement, si on continue, pas des changements agréables. Mais alors, toi, à ton âge, alors là, ça va être colossal. Oui. Je veux dire, tu ne vas pas vivre dans le même univers, tu ne vas pas vivre dans les mêmes histoires. Et c'est pour ça que c'est ta vie, c'est ton avenir, c'est ton histoire qu'il faut que tu prennes en main. Parce que ça dépend comment tu veux vivre, mais je suppose que tu veux vivre le moins désagréablement possible. Or, quand on parle d'environnement, on parle bien de la paix et de la guerre, on parle bien d'un niveau de minimum de décence de vie, on parle bien d'arriver à former des communautés humaines qui se respectent et qui peuvent vivre ensemble. Ça, c'est quelque chose qu'on va perdre si on commence à se faire la guerre pour des questions environnementales. Et le jour où il n'y aura plus assez de nourriture, où l'eau sera polluée, où l'air sera pollué, on va se battre. Donc, je comprends, là, je vois tous les jeunes qui se mobilisent sur le climat en disant « maintenant, ça suffit ». Ben, ils ont raison, c'est leur vie, c'est ta vie. Moi, là où j'en suis, je vais essayer d'accompagner au maximum. Mais je pense que toi, je pense qu'on n'a même pas assez d'imagination. Car tu ne peux pas imaginer ce que sera ta vie quand tu auras 50 ans. Mais bon, il faut essayer quand même de faire en sorte qu'elle soit la mieux possible.
Oui, le but, c'est d'essayer de faire le maximum pour l'environnement. Enfin, je suis très attachée à tout ce qui est cause environnementale. Mmh. Et je suis en train de créer ma start-up à côté pour essayer de protéger les océans.
Alors, t'as une idée précise, en fait ? Start-up qui va faire quoi ?
En fait, le but, c'est d'essayer d'organiser des collectes de récolte de déchets. Mmh. Donc, pour le moment, en France. Après, j'espère pouvoir à l'étranger, en fait, essayer de redonner une seconde vie à ce plastique.
D'accord.
Donc, le réutiliser. Et en premier objet, on est en train de tester une coque de téléphone portable. Parce que c'est un objet qu'on utilise tous les jours, qui n'est pas forcément très, très utile, mais qu'on utilise. Et du coup, c'est essayer de le retransformer grâce à du plastique recyclé.
D'accord.
Et est-ce que vous avez déjà été déçu par le manque d'engagement de certaines personnes ou certaines institutions ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit qui.
Le recul des lois. Évidemment, on peut être déçu par. On peut se poser des questions, se dire mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, quoi. Avec du recul, moi, c'est pas d'hier que ce genre d'idées que je les mets en avant. Il y a 20 ans, on nous traitait d'écologistes, c'était quasiment une insulte, quoi. C'était bande d'écolos, vous voulez nous ramener dans les cavernes, Alors, petit à petit, j'allais dire malheureusement, parce que ce qu'on racontait, c'est vérifié. Donc, aujourd'hui, on est quand même plus pris au sérieux. Mais c'est vrai que. À tous les niveaux, hein, que ce soit des individus, que ce soit des collectivités, des villes, des régions, des partis, des associations, des industriels, l'État. Il y a plein d'endroits où il y a plein de gens qui soit ne voient pas les problèmes, soit se disent que c'est urgent d'attendre, soit carrément, pour des intérêts tout à fait économiques, ne veulent pas aller vers les solutions qu'il va falloir un jour ou l'autre mettre en œuvre. Ça c'est les contradictions des sociétés. Et puis forcément, on n'a jamais une unanimité. Ce serait trop beau et trop facile. Donc oui, il y a des résistances à vaincre, il y a des preuves à apporter, il y a des solutions à inventer et à mettre en œuvre, à pousser. Il y a des gens contre qui il faut se battre, pas physiquement, hein, bien sûr, mais se battre sur le plan des idées. Donc il faut tout le temps, c'est ce que je fais moi avec le WWF, hein, on passe notre temps à faire des rapports, à aller voir toutes les entreprises, les politiques, les citoyens, à trouver des outils pour mobiliser les gens, enfin bon, voilà.
Et d'ailleurs, avec la WWF, quelle a été la victoire qui vous a le plus marqué récemment ?
Il y a pas mal de choses. Il y a des choses, j'allais dire, qui sont très techniques et qui ont une importance considérable. Bon, il y a des choses sur les espèces, tu vois, par exemple sur les baleines, la plupart, à part les baleines grises, la plupart des espèces de baleines commencent à aller mieux. Les pandas, ça commence à aller un peu mieux aussi. Il y a un certain nombre d'espèces où ça va un peu mieux. Le bio s'est beaucoup développé dans les cultures. Bon, ça, c'est des choses dans lesquelles on n'est pas tout seul, hein, mais sur lesquelles on a beaucoup travaillé. Il y a quelque chose, ça va être très technique et c'est pas forcément glamour. C'est qu'on a énormément travaillé avec le ministère des Finances pour que la France devienne le premier pays à émettre des obligations vertes. Alors ça, c'est très technique. Ça veut dire que l'État, en permanence, émet des obligations que, en général, des compagnies d'assurance ou des grands investisseurs achètent. Ça lui permet de se financer. Puis après, il va rembourser les intérêts. Or là, l'idée, c'est que ces obligations sont essentiellement destinées à financer des entreprises de la transition écologique. Donc ça fait une manne d'argent qui arrive, qui est fléchée par l'État pour favoriser la transition écologique. Donc ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, pour faire la transition écologique, il y a besoin d'argent. Et ce n'est pas neutre que l'argent de l'État, qui de toute façon fonctionne comme ça, mais là, soit fléché vers des bonnes choses parce que ça fait des milliards tout de suite. Tu vois, la première levée de fonds, c'était 6 milliards. Oui. Bah, tu vois, trouver 6 milliards comme ça en deux jours, voilà. Donc, tu vois, il y a des choses qui sont plus techniques, et puis il y a des choses sur les textes de loi, par exemple, sur lesquels on arrive à influencer, ou sur le comportement des entreprises. On travaille aussi beaucoup sur le business model. Par exemple, tu parlais des plastiques. On travaille beaucoup avec les entreprises comme Danone, comme Coca, comme tous ces gens-là, comme les supermarchés, pour qu'ils diminuent à l'origine les plastiques. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a le recyclage, le ramassage, etc. Ça, c'est un volet des choses. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'en amont, on arrête de se servir des plastiques.
Et qu'on
utilise autre chose, qu'on utilise des matériaux recyclables pour faire le même service et que du coup, on ait moins de risques de fuite de plastique dans la nature.
Oui, comme l'arrêt de du plastique à usage unique, par exemple.
Par exemple, ça a été aussi un de nos gros combats et ce n'est pas encore complètement gagné, mais il y a eu de très nets progrès. Et donc oui, ça c'est bien.
Du coup, quels seraient vos conseils pour, par exemple, une jeune étudiante comme moi qui veut mener le même combat, essayer de, à son échelle, enfin, moi, à plus petite échelle, mais d'essayer de lutter contre la pollution, essayer de mettre toutes ses chances à fond. Est-ce qu'il y a des compétences, des qualités spécifiques à avoir ?
Ben, moi, je pense que la première des choses, c'est qu'on ne peut pas agir seul. D'ailleurs, la pollution, on la crée à plusieurs. Hein. C'est bien parce qu'on est des sociétés qui... Voilà. Donc, on ne peut pas agir seul. Donc, il faut trouver des gens autour de soi, ou des partenaires, ou dans son boulot, ou partout, avec qui on va enclencher des choses. Soit en se rattachant à quelque chose qui existe, soit en créant une dynamique. Je pense à la jeune Suédoise là, qui a commencé à faire son mouvement sur le climat. Oui. Si elle était restée assise devant le Parlement toute seule pendant tous ces... Il y allait le vendredi, je crois. Si elle était encore toute seule, ça n'aurait pas changé grand-chose. Elle a eu cette capacité, alors elle, à travers les réseaux sociaux... à mobiliser les jeunes d'abord de son pays, puis les jeunes en Europe, puis et à commencer à faire quelque chose qui a du sens et qui est un vrai poids par rapport aux politiques, en leur disant votre jeunesse descend dans la rue pour qu'on lutte contre le réchauffement climatique. Donc voilà. Donc je pense que ça c'est vraiment la première chose. Après on peut jamais tout faire à la fois. Donc je pense qu'après il faut... C'est un peu comme si tu voulais être bonne dans tous les sports à la fois. C'est pas possible. Donc tu vas choisir une direction. Si toi, tu t'intéresses au plastique, ben voilà, tu vas choisir ce travail que tu fais comme bénévole. Et puis, toi, tu as choisi d'essayer de monter ton truc. Mais il ne faut pas que tu penses monter ta petite start-up toute seule dans ton coin. Il faut que tu vois, tu sois avec des grandes entreprises ou des moyennes, ou avec des scientifiques, avec des gens du marketing, avec des gens... Voilà. Et puis que tu essayes de coaliser quelque chose pour que ça ait un impact. Parce que ce qu'il faut maintenant, c'est avoir un impact à l'échelle de la planète, relativement vite. Donc, si tu fais les choses dans ton coin, ça va être bien, mais ça va rester dans ton coin et tu n'auras pas cet effet levier que tu peux avoir si tu arrives à mobiliser des gens autour de toi.
Oui, notre objectif, c'est vraiment de fédérer en fait, une communauté. On a commencé par une station balnéaire, la station balnéaire de Deauville, à essayer d'organiser régulièrement des collectes de déchets, des ateliers de sensibilisation au plastique, et organisé du coup par nous, par des jeunes, ce qui permet, je pense, de faire d'attirer plus le public jeune et de pouvoir toucher aussi les plus jeunes. C'est vrai qu'on sait personne.
Oui, bah, j'imagine, adultes, parce que c'est plus compliqué. Parce que de jeune à jeune, c'est plus facile de se parler, quoi, hein, c'est sûr. Non, mais voilà, c'est ça, c'est bien.
Pour vous, quelles sont les qualités à avoir pour être à la tête d'une ONG, d'une entreprise?
Je pense que d'être un peu calme, ça aide. parce que quand même, quand on est à la tête d'une ONG ou d'une entreprise, c'est quand même du stress permanent. Tu vois, il y a toujours... et puis avoir un peu de recul, quoi. Mais après, il y a beaucoup... il faut être capable d'identifier les objectifs. D'abord, je pense qu'il faut vraiment avoir une vraie culture des choses. Il faut beaucoup lire, il faut beaucoup... tu vois, il faut aller chercher des informations, il faut avoir une idée d'une vision des choses. Si c'est le plastique, il y a plein de gens, il y a plein de littérature, il se passe plein de choses dans les autres pays, il y a plein d'associations qui s'en occupent, donc il faut avoir une vraie culture de tout ça pour comprendre vraiment les objectifs. Après, il faut avoir une vision, c'est l'étoile que tu regardes tout là-haut, en haut, hein, donc une vision globale de où tu veux aller et où tu veux emmener éventuellement ton organisation. Et puis après, quand tu es à la tête d'une organisation, il faut avoir cette capacité à faire arriver ce que tu veux, le chemin vers l'étoile. C'est-à-dire qu'il faut être capable de mobiliser les gens en interne, tes salariés ou tes bénévoles, pour qu'ils aient la pêche, pour qu'ils comprennent bien qu'est-ce qu'il faut faire, où il faut le faire. C'est à toi de faire en sorte qu'il y ait toutes les compétences pour répondre à ton problème, qu'il y ait tout le cadre, c'est-à-dire faire advenir ton rêve, le faire rentrer dans la réalité. En fait, c'est un peu ça que font les gens à la tête des organisations. Ils imaginent quelque chose, ils imaginent un chemin. Et puis après, ils ont cette capacité à fédérer les gens autour d'eux pour faire en sorte que ça arrive. Et je peux reprendre l'exemple du bateau. Moi, je dis un jour, j'ai envie de faire une course autour du monde en solitaire. Bon, très bien, ça c'est mon étoile, c'est ma vision. Le chemin, ça va être que je vais me former en faisant telle et telle compétition, mais ça va être aussi que je vais avoir des équipes petit à petit avec des architectes, des ingénieurs, des préparateurs, des voiliers, des accastilleurs, des préparateurs physiques, des trucs et des machins, et que je vais créer autour de moi une dynamique et une communauté qui va, à un moment donné, faire que ça va devenir pour de vrai, quoi. Donc, je crois que c'est beaucoup ça, en fait, le boulot dans... Mais effectivement, tu as raison, que ce soit dans une ONG ou dans une entreprise, c'est un peu la même chose. C'est comment faire advenir concrètement les choses.
En fait, oui, c'est vraiment essayer de fédérer les gens, d'avoir...
Tu peux pas tout savoir faire toi toute seule, jamais. Parce que d'abord, les choses aujourd'hui sont trop complexes. Et qu'il faut souvent des spécialistes. Dès que ton organisation va grandir un peu, il faudra, peut-être un conseiller juridique. Toi, tu n'es pas juriste. Il faudra peut-être un chimiste pour les plastiques. Il faudra peut-être... Voilà. Donc, tu vas avoir besoin d'un certain nombre de gens autour de toi pour arriver à ton projet. Peut-être des pédagogues, si tu t'adresses... Donc, c'est... Toi, ton boulot, ça va être de tracer le chemin et de garantir que tu crées l'écosystème, hein, pour employer ce mot-là, qui va te permettre de réaliser et puis de vérifier au fur et à mesure que les choses se déroulent, que tu en es bien dans la bonne marche, ou que s'il y a un problème, tu tombes sur un truc qui ne va pas, qui te pose un problème, il faudrait peut-être trouver un chemin détourné ou prendre un peu de délai en plus, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il faut que toi, tu es le garant que les choses avancent dans le bon sens et qu'on va bien, que l'objectif est bien celui-là, quoi.
C'est un bon conseil. Et du coup, s'il y avait quelque chose à refaire ou à changer dans votre parcours, quel serait-il ?
Ah, mais moi, j'ai pas cette façon de voir les choses. Moi, je jette rien, parce que d'abord, ça sert à rien. Ce qui est fait, c'est fait. En plus, je me suis vraiment éclatée dans la vie. Alors là, franchement, et je pensais pas que tout se ferait comme ça, mais j'ai fait vraiment des trucs qui m'ont éclaté complètement, que ce soit la course au large, l'écriture, le WWF, voilà. Alors, je sais que j'ai fait des choix personnels, forts, pour ça, que je regrette pas, parce qu'on peut pas tout faire en même temps. Donc, j'ai fait des choix que je regrette pas. Et après, le seul truc, c'est que je pourrais me dire, bah, s'il n'y avait pas la question de l'âge, parce que quand même, au fur et à mesure que tu fais tout ça, les années passent, j'aurais encore plein de trucs que j'aurais envie de faire. Donc, si je rappuyais, je rembobinais le fil et que je repartais avec mon expérience à 20 ans, j'aurais encore plein d'autres trucs que j'adorerais faire. Mais bon, après, bah voilà, c'est... Mais dans ce que j'ai fait, ça n'a pas tout marché, hein. Tu vois, je me suis inscrite dans des courtes que j'ai pas gagnées, enfin bon, bref, voilà, où j'ai fait des projets qui n'ont pas marché, ou... donc ça n'a pas tout marché. Mais encore une fois, même si le résultat à un moment donné n'a pas été là comme je le voulais, le chemin, encore une fois, que j'ai emprunté a été extraordinaire. Il m'a apporté énormément de choses, des choses que j'imaginais pas du tout. Donc je crois que c'est ça, c'est que à un moment donné, j'ai été la garante du chemin.
Et du coup, quelles choses auriez-vous aimé faire? Par exemple, vous disiez, si j'étais plus jeune, j'aurais fait...
Moi, j'aurais adoré aller dans l'espace. parce que je ne sais pas, est-ce que c'est parce que quand j'étais toute petite fille, j'ai vu les pas de l'homme sur la Lune et que j'avais trouvé ça incroyable? Est-ce que, parce que y a à la fois, pour moi, c'est à la fois quelque chose de très poétique et de très, très technique, et les deux m'intéressent. Parce que je pense que c'est des moments uniques de voir, de se rendre compte que notre planète est un grain de poussière. Et que, voilà, par exemple, c'est des choses que j'aurais aimé faire.
C'est original au moins. Et du coup, vous avez dû faire des choix. Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué d'allier vie professionnelle, vie personnelle, vie sportive ?
Ouais, ça a été un peu compliqué, comme à chaque fois. Moi, en fait, j'ai pris des embranchements. J'ai commencé par une carrière de scientifique. Hein, donc, pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé comme scientifique. Pendant les dernières années de cette période-là, j'ai commencé à faire de la course et du bateau, on va dire, en termes de course, que je faisais, alors là, en essayant d'aménager les choses, etc. Puis après, j'ai pris un embranchement. J'aurais pu continuer ma carrière de scientifique. Je voyais à peu près où ça allait. Aujourd'hui, je serais IFREMER, chef de service, chef de labo, je ne sais pas quoi. Et puis, ben, j'ai pas eu envie de ça. J'ai eu envie de bifurquer vers la course au large en sachant que là, je ne savais pas où j'allais. Parce que c'était compliqué. Et que je partais de zéro. Personne m'attendait. Personne n'allait me... À l'époque, c'était des francs. Personne n'allait me donner un franc pour faire ça. C'était table rase. Il fallait que j'invente le truc. Et j'aime bien ça, moi. J'ai l'esprit à ça. Donc, j'ai dit, banco, on y va. Et puis, j'ai rebelote quand j'ai arrêté de faire la course au large, en 2000. Je suis repartie une feuille blanche. J'ai dit, j'arrête la course au large. Ben, mon ancien métier, je ne pouvais plus le pratiquer parce que les choses avaient changé. Je n'allais pas redevenir ingénieur des pêches. J'avais dit que j'arrêtais la course au large. Il a fallu inventer autre chose. Donc, j'ai inventé autre chose, d'autres choses que j'avais envie de faire. Hein. Donc, l'écriture, les voyages maritimes, mais différents, pas en course, en expédition. Et je me suis reconstruit encore autre chose. Et voilà, mais... Moi, j'aime bien gérer ça. C'est des choses très personnelles. Moi, j'aime bien gérer l'incertitude et j'ai horreur de la routine. Et ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans une direction où je suis sûre que je vais apprendre, mais je suis pas sûre de là où je vais arriver. Voilà. J'ai une ambition, j'ai une étoile. Et puis je mets en œuvre des choses pour y arriver. Et puis ben après... Alors, c'est vrai que, par exemple, il y a aussi eu des choix de vie personnelle. Moi, j'ai toujours énormément travaillé. Là, en ce moment, je suis 7 jours sur 7, 14 heures par jour. Donc là, j'ai encore 3 rendez-vous. Je vais finir, je vais me coucher, il sera minuit ou moins le quart. Demain, ça recommence à 7 heures. C'est pas grave, c'est des choses qui m'intéressent. Mais c'est des choix. Pendant ce temps-là, je suis pas avec mes copains, je suis pas avec ma famille. J'ai exprès pas fait de gosse parce que c'est pas parce que j'avais pas envie, mais parce que je pouvais pas tout faire et que j'aurais tout fait mal. Donc j'ai fait des choix. Et bon, bah... Voilà, j'en suis pas du tout malheureuse parce que je pense qu'aujourd'hui, je me sens bien dans mes baskets, quoi. Mais il faut accepter de les faire à un moment parce qu'on ne fait pas tout. Si on veut tout faire, on fait tout mal.
Oui. On sait faire ses choix pour suivre ses rêves en n'ayant pas trop peur, en n'ayant pas peur des risques.
C'est-à-dire qu'il faut bien analyser ce que c'est que la peur des risques. Souvent, la peur des risques, c'est la peur du regard des autres, déjà. Mais en fait, on s'en fout. Moi, ça m'est égal. Je ne sais pas si les gens sont contents ou pas contents. Je ne leur ai pas demandé leur avis. Éventuellement, mes pères, les gens avec qui je travaille, avec qui, voilà, là, ça peut m'importer. Mais sinon, voilà. Et puis, on est quand même dans une société où, encore une fois, ce n'est pas rédhibitoire. Tu ne vas pas passer à la trappe parce que tu as pris à un moment donné un mauvais chemin ou parce qu'à un moment donné, tu n'as pas eu exactement le résultat que tu attendais. Tu vois, c'est pas... Donc, il faut s'autoriser à se tromper. Et souvent, tu apprends, d'ailleurs. Hein. Moi, je sais qu'il y a des trucs que j'ai essayé de faire et j'ai travaillé pour, etc. Et puis ça ne s'est pas fait. N'empêche que pendant ce temps-là, j'ai fait un sacré chemin. J'ai rencontré plein de gens. J'ai eu plein d'idées. Et puis après, quand ça ne s'est pas fait, bah, j'ai repioché des trucs, tu vois, des contacts, des gens, des idées, des choses. Et puis, j'ai fait autre chose après. Et donc c'est jamais perdu, quoi.
Mais c'est vrai qu'en France, en tout cas, c'est le sentiment que je ressens depuis que je suis assez jeune avec le sport, etc. C'est qu'on est très mis dans des cases et il faut suivre un parcours particulier. Et dès qu'on bifurque un peu, on est souvent perçu comme... Par exemple, je sais qu'avec le sport, quand j'étais au collège, c'était on peut pas faire le sport et ses études. Mmh. Et après, bon, j'ai eu la chance d'intégrer un lycée sous le modèle américain, anglophone. Et du coup, le sport a été valorisé, etc. Et c'est pareil, par exemple, là, alors que je veux prendre une voie entrepreneur et essayer de faire de l'écologie, on me dit bah non, pourquoi tu fais pas un stage dans une grande entreprise pour avoir ensuite ton CDI à la clé, etc. C'est vrai que c'est toujours compliqué de prendre un chemin différent et qu'on est souvent découragé par les autres.
C'est-à-dire que oui, parce qu'il y a des modèles, puis les autres ils font ça pour ton bien, comme on dit. Hein. Ils disent oh là là, faut que tu aies un bon métier et tout. Moi, quand j'ai dit à mes parents qui, quand même, étaient très fiers d'avoir leur fille ingénieure, que je leur ai dit que je lâchais tout pour aller faire le tour du monde en bateau à voile, je ne suis pas sûre que ça les ait... Enfin bon, ils ont super bien réagi, mais ils ont peut-être dit quand même, c'est quand même un peu dommage, quoi. Voilà. Donc oui, il y a des fois, on te donne des conseils comme ça, c'est entre guillemets pour ton bien, parce qu'on pense que tu vas mieux t'intégrer à la société, donc ce sera plus facile, etc. Donc après, c'est toi, c'est aussi ta force de caractère à toi. Hein. Et je pense qu'en général, les sportifs et les sportives... Ils ont de la force de caractère parce que il faut avoir de la détermination pour s'entraîner tous les jours, faire les choses et tout. Donc c'est pas simple. Donc en général, c'est plutôt des gens qui ont de la détermination. Donc je pense que ça peut t'aider aussi et ça va t'aider aussi ailleurs que dans ton sport. Tu vois, ça t'aide dans ton sport, mais ça va t'aider à plein de moments de la vie. Donc voilà, donc après, tu vas mener les choses. T'inquiète pas trop de ce que les gens disent autour de toi. Hein. Oui. Surtout qu'en plus, tu vas jamais en trouver deux qui sont d'accord. Donc, il y en a un qui va te conseiller un truc, l'autre qui va te conseiller autre chose. Donc voilà, donc c'est bien. Alors, ce qui est bien, par contre, je trouve, c'est de discuter avec les gens, que ce soit tes parents, enfin ta famille, tes amis, ton compagnon, que sais-je, des gens que tu fréquentes dans tes milieux professionnels. C'est toujours bien parce que tu testes des choses. Et les gens vont te renvoyer des questions que tu t'es pas posées, des idées que tu n'as pas eues, tu vois, des solutions auxquelles tu ne pensais pas. Donc ça, il ne faut pas hésiter à te nourrir, parce qu'on n'est jamais plus intelligent à plusieurs, enfin, on est toujours plus intelligent à plusieurs que tout seul. Donc, tu vas te nourrir de toutes ces choses-là. Donc, c'est pas sur un mode de confrontation, mais c'est sur un mode d'écoute. Tu dis, ben voilà, je voudrais faire ça. Puis on va dire, ben attends, tu vois. Puis après, t'en feras ce que tu voudras. Mais peut-être, il y a des fois, ça va t'éveiller à quelque chose auquel t'as pas pensé. Donc ça, faut pas hésiter à le faire. Puis après, c'est toi qui vas arbitrer sur tes choix et sur là où tu penses aller.
Hein. Merci en tout cas.
Si j'avais une question à te poser, moi, c'est que tu m'as dit que t'étais très impliquée sur l'environnement marin. Or, tu fais pas un sport nautique. Donc, y a quelque chose de particulier pour toi par rapport à la mer, à l'océan, qui fait que tu t'intéresses particulièrement à ça ?
Alors, deux choses. J'ai grandi en Normandie, près de la mer. Du coup, ça a toujours été un milieu qui m'a intéressée. Et ensuite, j'ai eu la chance de faire de la plongée pendant mes plus jeunes années. Et j'ai tout de suite adoré. Je me sentais directement dans mon élément. Et j'ai remarqué en plongeant des années d'affilée, parce que forcément, avec mes compétitions, etc., je n'avais pas le temps régulièrement, bah, que les fonds marins changeaient et qu'il y avait de plus en plus de coraux qui mouraient, des pêcheurs qui faisaient n'importe quoi, les poissons qui disparaissaient peu à peu. Et c'est vraiment un constat qui m'a choquée. Et parce qu'en fait, on s'occupe toujours de ce qu'on voit. C'est vrai que les océans, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, surtout quand on est en continent, quand on est à Paris, par exemple. Et on ne se rend pas forcément compte, alors que c'est vraiment un monde merveilleux de couleurs. C'est un monde qui me passionne. Je pense que si je n'avais pas fait l'équitation à haut niveau, je me serais dirigée vers une voie pour aller faire de la plongée, être professeure de plongée. Donc c'est pour ça que...
C'est peut-être pas perdu, peut-être un jour, t'en feras quand même.
Peut-être un jour, j'espère, mais voilà, c'est pour ça.
C'est super, bravo, continue. Hein.
On va essayer, en tout cas.
Merci à toutes les deux, c'était vraiment très inspirant. On a passé une bonne partie de cet épisode à parler de l'engagement des jeunes pour le climat, mais aussi sur comment avoir un impact sur la société à travers sa propre carrière. Et puis, on a appris quelles qualités il faut avoir pour être à la tête d'une ONG ou d'une entreprise. Donc, on a appris plein de choses. Je tiens vraiment à vous remercier toutes les deux.
Bah oui, c'était sympa les rencontres. C'est toujours bien, hein. C'est toujours enrichissant. Merci, bon courage à toi.
C'était super intéressant. Je pense que j'ai appris pas mal de choses. Merci beaucoup en tout cas.
À bientôt.
Si comme nous, ça vous a plu, foncez sur iTunes, mettre 5 étoiles, ça nous aidera vraiment à faire connaître le podcast.
Rendez-vous dans 2 semaines avec une nouvelle invitée et une nouvelle étudiante intervieweuse.
Salut!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.